à l'occasion de l'album La Sixième Heure chez Soleil, qui est dessiné par le dessinateur Juan Ferreira. On a décidé de vous parler avant tout de Juan Ferreira, mais évidemment de cet album. Donc la première chose pour apprendre qui est Juan Ferreira aux gens qui n'iraient que la franco-belge, c'est une bonne vieille biographie faite par le spécialiste local, Alain, donc, qui va nous parler de ce dessinateur argentin.
Plus qu'une biographie, ce sera plus une bibliographie, puisque...
Tu sais pas où il est né? T'as pas le nom de la sage-femme?
Non, je sais qu'il j'ai eu un mal de chien à trouver la date de naissance, figure-toi. Et là, je te dis, c'est un coup de gueule que je pousse. Ça fait deux fois que vous me donnez des biographies de gens qui n'ont pas beaucoup travaillé, ou si peu que... Y a pas grand-chose à dire, au final.
T'étais sur son Facebook?
J'ai trouvé son Facebook, effectivement.
Bon alors, tu l'as la date de naissance?
Voilà, ouais, donc je sais qu'il est né, effectivement, en 1978. C'est un artiste argentin, effectivement, qui habite actuellement à Cordoba. Ça vous fait une belle jambe, moi aussi. Mais, écoutez, c'est toujours bon de le savoir. Donc, Juan Ferreira, dessinateur de son état, mais dessinateur et aussi coloriste, et aussi peintre, puisqu'il travaille aussi dans le domaine de la couleur et de la peinture, et qu'il a fait notamment des planches peintes sur Small Gods, sa première série.
Donc, Small Gods, qu'il a entièrement colorisé, mais qui est sorti entièrement en noir et blanc.
Voilà. Donc, pour le coup, c'est un petit peu dommage. Donc, et effectivement, Small Gods, première série, en tout cas, premier travail américain connu par chez nous, édité par Image en 2004, avec le scénario de Jason Rhodes.
Et repris, effectivement, chez Semic en un seul tome.
Exactement. Donc, Small Gods, 12 numéros, plus un spécial sur des personnes qui se trouvent à avoir des pouvoirs, mais vraiment pris par le petit bout de la lorgnette, vraiment au niveau de la vie quotidienne. C'est plutôt intelligente et intéressante, malgré sa courte durée de vie. En tout cas, qui nous a fait repérer ce jeune dessinateur plutôt doué dans un style assez réaliste. Donc, et on n'a pas été les seuls finalement à l'avoir repéré, puisque assez vite il a embrayé à la suite sur Rex Mundi.
Voilà, on va quand même.
Série fétiche de notre ami Tony.
Ouais, enfin, autre série fétiche, parce que Small Gods en faisait déjà partie d'emblée. Alors, quand même, revenir un minimum sur cette série, qui est Small Gods. On nous expliquait que 10% des gens avaient des pouvoirs psychiques, alors qu'ils étaient souvent des pouvoirs très faibles à leur niveau.
C'est-à-dire voilà, que... Small Gods, c'est petit dieu, effectivement, c'était vraiment ça. Voilà. Les gens, c'était par le petit bout de la lorgnette.
Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, 10% de la population était télépathe, télékinésiste, pouvait prédire l'avenir ou influencer les émotions des personnes. Voilà. Il y avait 4 pouvoirs qui étaient reconnus. Sachant qu'effectivement, même si 10% des gens avaient ce type de pouvoir, 80% d'entre eux avaient un pouvoir tellement faible que le télékinésiste moyen, il pouvait soulever la petite cuillère pour la mettre dans sa tasse de café.
Présente finalement que peu d'intérêt.
Voilà. Donc, le personnage principal était donc un flic qui avait donc le pouvoir de prédire l'avenir. Et à partir du moment où il est découvert qu'il a un pouvoir d'influencer les capacités, ça lui interdit du coup d'appartenir à la police. Et il a donc, il risque de perdre sa place si cette information s'avérait être connue. Donc c'est l'intrigue de départ. La deuxième histoire, c'était sur un joueur qui utilisait le même don d'ailleurs de voir l'avenir pour gagner aux cartes jusqu'au moment où ça va se découvrir. Et donc dans le spécial, le dernier épisode sorti, on avait la rencontre de ces deux personnages. Ça devait sortir en couleur à l'époque, c'est sorti en noir et blanc.
Et encore.
Et après, eh bien, on a eu un autre problème, c'est que Jason Rand a totalement disparu. Juan Ferreira n'arrivait plus à le contacter. Il voulait continuer à Small Gods, mais à chaque fois qu'il l'appelait, il faisait le mort. Il n'avait plus du tout de nouvelles. Et il a été du coup obligé, dans un premier temps, d'écrire une suite tout seul, puisqu'il n'avait plus de scénariste. Il a fait une mini-série en 2 parties qui est restée inédite. Elle aussi, il l'avait entièrement colorisée, puisqu'il avait prévu de la sortir en couleur chez Image. Valentino misait beaucoup à l'époque, grâce à Image Centrale, puisqu'il était encore à la tête d'Image Centrale, sur ce dessinateur qui est Juan Ferreira.
Voilà, donc, et du coup, il lui a confié Rex Mundi au départ de.
Eric J, qui s'est fait virer par Harvey Nelson. Et donc, on voit arriver dessus Juan Ferreira En notant quand même qu'entre-temps, il avait fait 2-3 petits travaux, notamment des pin-ups pour Shadowhawk, qui prouvaient quand même qu'il n'était pas lâché par Valentino.
Et là, effectivement... Son poulain, il avait détecté, je pense... qu'il y avait du talent là-dessous.
De toute façon, le dernier Small God sort en novembre 2005 et dès janvier 2006, il reprend le dessin sur Rex Mundi. Donc voilà, ça a vraiment enchaîné.
Voilà, et donc effectivement, ça s'est fait très vite. Donc il a terminé, c'est lui qui a donc fini la série Rex Mundi chez Image.
Voilà, il a repris à partir du 16. Il y a eu 38 numéros en tout. Il en a fait plus de la moitié.
Donc ce qui est pas mal. En tout cas, dessinateur compétent et productif. Il a autre-temps aussi signé Emissary pour Image, un projet un peu plus personnel.
Voilà, pour Image et pour Shadowline, puisque c'est effectivement Valentino qui éditait le titre, même si Rex Mundi, lui, était chez Image Centrale. Et donc, Emissary, c'était le Christ qui revenait sur Terre de nos jours.
Voilà, sauf qu'il avait des pouvoirs, il avait un costume de super-héros, il était noir.
Et c'est surtout que le Christ était noir, voilà. Voilà. Et ça, effectivement, ça faisait un peu grincer des dents au niveau du Vatican. Et c'était toute la logique, effectivement, de savoir. Donc ça devait être une série en 12 parties qui est articulée en 3 arcs de 4. Donc une série de 3 mini-séries. Sauf que, évidemment, faute de vente, la série a dû s'arrêter au bout du 6.
Voilà. Et c'est là qu'on a retrouvé, par contre, Jason Rand qui avait donc... repris des couleurs, sorti sa déprime peut-être et était revenu aux affaires comics. Donc voilà. Emissary effectivement qui n'a fait que 6 numéros.
Alors sur les 12 qui étaient prévus, c'est vrai qu'on n'a jamais.
Sur les 12 qui étaient prévus.
Et du coup, enfin, je pense pas qu'on ait jamais eu ne serait-ce que le script complété pour savoir effectivement ce qu'ils avaient prévu derrière pour clôturer ce deuxième arc et surtout conclure la série dans le troisième arc.
Voilà, donc effectivement, une série inachevée comme on en. En avoir quelques-unes, effectivement, plutôt dommage. Donc, pour la suite, ça se passe chez Dark Horse finalement, puisque on l'a dit, Rex Mundi est relancé chez Dark Horse, toujours par Arvin Nelson au scénario. Pardon.
Voilà, donc ça se passe d'ailleurs en parallèle de la série Emissary, puisque les deux sortent en parallèle. Il fait d'ailleurs aussi une histoire courte sur une Shadowhawk Flower Power dans le numéro 13 de la série.
Exactement, donc je vous ai passé quand même les histoires courtes qui présentent assez peu d'intérêt, c'est un peu difficile à trouver.
Non, mais quand donc, c'est beau, ça a toujours de l'intérêt.
C'est, effectivement, c'est vrai. Toujours est-il que donc Rex Mundi, qui essaie de reprendre des couleurs chez Dark Horse, pour malheureusement ça n'ira que 18 numéros, la série s'est arrêtée depuis. Mais quelle série, Tony en a parlé et reparlé, je pense que vous êtes tous convaincus de l'absolue nécessité de lire cette série.
Et si vous avez encore un doute, vous allez sur le site Aleph et vous allez écouter la chronique donc de Rex Mundi.
Voilà, qui est actuellement en ligne, c'est pas belle, elle est pas belle la vie.
Hein, quel talent.
N'est-ce pas. Toujours chez Dark Horse donc, on retrouve Juan Ferreira sur Conan and the Midnight God, mais cette fois pas du tout au crayon, puisqu'il s'occupe simplement des couleurs pour Will Conrad. Et donc on voit là une autre palette de ses talents. J'ai deux mots. En tant que coloriste, puisqu'il a l'habitude de peindre ses propres planches, là il le fait pour un autre dessinateur, Will Conrad.
Alors c'est vrai que c'est finalement quelque chose qu'on l'a vu peu faire, puisque ces deux séries phares, la première il a colorisé en noir et blanc, et la deuxième, il l'a évidemment faite avec le coloriste de base. Qui était donc Jeremy Cox qui a colorisé la série dès le début.
Voilà, exactement. Jeremy Cox, qui est un professionnel reconnu de la profession. Comme. Chez Moonstone, je vous ai quand même sorti une petite histoire courte. Un animal de The Phantom, écrit par Mike Bullock. Chez Moonstone, donc il a quand même réussi. Je pense que quand on est chez Dark Horse, on ne réussit pas à rentrer chez Moonstone, mais il a bien voulu de proposer ses services pour Moonstone avec cette courte histoire de The Phantom, je vous rappelle. C'est
alors, je vérifiais quand même, c'est bien ce que je pensais. La série Image, il la faisait effectivement colorisée par Cox, mais la série Dark Horse est bien colorisée par Ferreira, par contre.
D'accord. Donc, effectivement, il était... L'histoire de Dark Horse était à même de voir... tout le talent qu'il avait effectivement pour la colorisation. Autre projet beaucoup plus personnel effectivement, j'en reviens, chez Image encore, donc toujours poussé par Jim Valentino, Lazarus.
Alors, mini-série.
Mini-série en trois parties.
Voilà, donc effectivement.
Qu'il co-crée avec son ami Diego Cortés. Donc, sur un personnage qui se découvre immortel et qui essaie de découvrir les origines de cette immortalité et qui en découvre aussi les inconvénients.
Et là, on commence déjà à voir quelque chose qui va sous-tendre quand même toute la carrière de Ferrara, c'est le côté mystique. Parce qu'effectivement, Rex Mundi reste une série mystique. Sur Lazarus, ben, rien que le titre, effectivement, laisse avoir cette idée sur la mort, etc. Et on retrouve vraiment cette idée qui va être un peu un filigrane quand même de sa carrière.
Voilà, oui. Ben, mystique, heureusement, il y a une mystique très éloignée de celle qu'on pourrait avoir, par exemple, chez Topco avec leur Witchblade et autres Darkness. Donc une mystique beaucoup plus réaliste et qui fait un peu plus réaliste et donc un peu mieux, on va dire.
Ouais. Alors évidemment, la dernière œuvre effectivement sur laquelle il travaille aux États-Unis actuellement, c'est une adaptation donc pour un comics online donc qui est sur le site Dark Horse.
Entre temps, voilà, elle aura quand même terminé pour Mario Guevara la mini-série Solomon Kane Death Back Riders.
C'est vrai qu'il enfin, il l'a terminé.
Il l'a complété parce qu'il a dessiné les numéros 2 à 4.
Voilà, il a fait 3 quarts quand même.
Donc Mario Guevara n'a fait que le premier numéro. Son scénario de Scott Allie, des scénaristes habituels de Solomon Kane. Donc, effectivement, il est depuis maintenant l'illustrateur de Falling Sky, série produite par Steven Spielberg, et qui fait donc l'objet, effectivement, d'un comics online pour chez Dark Horse, et dont le numéro a même été publié, je crois, un one-shot a été publié récemment.
Oui, le one-shot qui est publié online, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu d'édition papier pour l'instant. Qui a été faite.
Scénarisée par Paul Tobin en tout cas. Et donc ce qui nous amène entre temps, puisque pendant tout ce temps-là, eh bien, le sieur Ferrara travaillait pour Soleil, travaillait pour la France, monsieur. Et oui. Et il illustrait la sixième heure.
Donc,
le premier tome en tout cas. Titre scénarisé par Nicolas Pona. Et donc eh bien, c'est le moment où je te passe le flambeau.
Voilà. Parce que donc effectivement il a fait ce titre donc toujours dans une mystique religieuse puisque c'est dans la collection Secrets du Vatican. C'est un titre donc on n'a que le numéro 1 pour l'instant, c'est annoncé comme une série en 3 parties. Alors Secrets du Vatican, comme son nom l'indique, ce sont que des séries qui vont avoir un lien à la religion. C'est la 12e série quand même. On a différentes œuvres dedans, dont Satan, dont deux numéros étaient sortis, dessinés par Cerquera. Donc voilà, il y avait pas mal de choses dans cette collection. Et là, on arrive à la 6e heure. Alors, avec effectivement Pona au niveau du scénario. Alors, c'est un scénariste quand même qui a travaillé, hein, qui a une carrière au-delà de ça. Il a fait 4 albums, je crois, chez Soleil déjà, plus une série qui était chez Le Lombard. Donc, un auteur, quand même, qui, bien qu'il ait une carrière relativement récente, est assez productif pour un auteur de franco-belge. Là, moi, le problème sur cette série, c'est que, donc, on est encore un peu dans le flou. Et on a un peu l'impression qu'au bout d'un album, l'exposition n'est pas terminée. Et ça, moi, ça m'a un peu bloqué. Juan Ferra s'en sort plutôt bien, même si effectivement, François me faisait remarquer qu'il y avait un problème de perspective sur la couverture, qui, maintenant que je la regarde, effectivement, en le sachant... Après, moi, ce qui me choque aussi, surtout sur la couverture, c'est qu'elle ne correspond pas, elle n'est pas en lien avec l'intérieur. On voit bien les deux personnages principaux, parce que sur la couverture, il y en a une qui est blessée. On ne sait effectivement pas du tout quoi elle est blessée, parce que ça n'arrive pas dans la bande dessinée. Et surtout, on a pour cette couverture les signes religieux qui apparaissent. On voit qu'ils sont sur le sol d'une église, la gamine tient un crucifix. Et là est un peu tout le problème. On sent bien que derrière cet album, il a fallu réécrire certaines choses, et on a dit, mais ça rentre pas encore dans la collection, là. On le sort tout seul, on va pas voir qu'il est en collection Secrets du Vatican. Donc, pour un peu expliciter les choses, à 2 pages de la fin, on nous a quand même fait une scène de 2 pages sur la Passion du Christ. Alors qu'il y aura sûrement une utilité dans la suite de la série, mais qui pour l'instant, c'est pas clair. Ça part sur le destin de 3 femmes, nous dit-on, sauf qu'effectivement, la 3e, eh bien, on la voit peu ou pas dans cet album. Donc, juste, je vais vous lire la première page. 253 années de réclusion. Vous sortez aujourd'hui les papiers, vos affaires, 30 pièces d'or et un moule à balles. Signé ici, merci, bon retour et bonne chance.
C'est puissant et profond comme dialogue.
On voit ce dialogue qui, en plus, ne colle pas à ce qu'on voit sur les images. Hein. C'est sur une scène d'exposition. Et on voit effectivement jeune femme sortir. Mais 253 années de réclusion, déjà, je ne sais pas comment, au niveau judiciaire, on explique ça et comment on la laisse sortir. Surtout quand elle est gueulée comme une nana de 20 ans.
Donc, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, c'est bizarre.
Voilà. Allez, on va dire qu'elle a 30 ans parce qu'effectivement, quand on regarde celle qui est censée être sa fille, elle a effectivement une dizaine d'années. Mais bon, elle a une dizaine d'années, mais comme sa mère est en prison depuis 253 ans et qu'elle n'est pas allée en prison, on ne sait pas trop d'où ça sort. Donc, il y a encore ce rapport entre les personnages, que leur origine soit pas encore explicitée. Ça peut paraître logique sur une série comme ça. Il y a quand même un peu un problème quand on n'a pas effectivement l'exposition sur tous les personnages. Après, il y a aussi évidemment tout ce mystère qui va falloir éclaircir dans la série. Et pour cela, on a donc un duo de flics qui va s'occuper de trouver les informations. Moi, j'ai trouvé graphiquement que c'était pas mal, même si on n'a pas l'impression que Ferreira se lâche à fond. Et il nous a habitué effectivement à des choses un peu meilleures. Au niveau par contre de la mise en page, on voit qu'il n'est pas forcément habitué au format des planches à la franco-belge. Il y a un nombre de cases assez impressionnant sur ces planches. Ça donne une lecture d'une certaine manière assez dense, mais au final le scénario lui suit pas. Et c'est vrai qu'il y a des éléments comme ce flic qui est tout le temps en kilt.
Ah effectivement.
Hein, il a son étoile de flic, mais il est dans le commissariat en kilt. Je ne suis pas sûr que ce soit très réglementaire comme tenue. Et ça n'apporte absolument rien. C'est pas expliqué. Et ça fait partie de tous ces éléments dont on se dit, s'il arrive de nous les expliquer d'ici la fin, d'accord. Si ça a effectivement une utilité à l'histoire, je veux bien. Mais pour l'instant, il y a effectivement beaucoup d'éléments qui restent totalement incompréhensibles. Donc l'héroïne principale est muette, c'est sa fille effectivement qui lui sert d'interprète. Je vois François qui tire des yeux comme si il était étonné de ça. Il y a un peu des poncifs et des facilités d'écriture qui moi me bloquent un peu parce que c'est vrai que j'attendais plus de cet album. Graphiquement, je ne suis pas déçu par Ferreira, quoique je préfère effectivement ce qu'il faisait sur X-Men, mais on ne peut pas dire que ce soit mauvais. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments sur lesquels je suis encore très, très suspect par rapport à cette série. J'ai envie d'y croire parce que j'ai envie de croire à tout ce que fait Juan Ferreira, mais il faut effectivement que certaines choses soient encore tirées au clair. Voilà, donc bon. À suivre, ça sort chez Soleil, ça coûte, si ma mémoire est bonne, 13,50€ pour 48 pages, et c'est de la franco-belge. J'aurais un peu envie de vous dire que si vous n'avez pas lu les Rex Mundi, il a fait le tome 2 qui est sorti chez Milady il n'y a pas longtemps, et pour le même prix, on est dans quelque chose qui va valoir plus son pesant de cacahuète. Deux tomes parus.
C'est la propagande de comics, là, je dois.
Mais non, c'est un argentin, il n'y a pas de propagande. Et puis bon, je te ferai remarquer que la semaine dernière, je parlais manga. Si je parle pas un peu parfois de comics, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je reviendrai vous en parler plus tard, quand on aura d'autres tomes de sortie. J'ai vraiment envie de savoir où ça va, si vraiment ça va se prendre le mur, comme on peut, ça peut le laisser penser. J'aurais quand même une tendance à vous dire d'attendre avant de l'acheter et de voir effectivement ce que donnera la suite. Parce que je peux pas vous le conseiller comme ça. Il y a quand même pour moi un aspect qui nécessite vraiment de voir venir pour savoir si oui ou non c'est un bon album. Oui François, tu as le micro.
Oui, je me demandais en fait, c'est le avec toutes ces collections là qui sortent comme 1800 où on avait eu où il y a pas mal déjà d'albums qui sont sortis. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour le deuxième?
Il n'y a pas de date prévue pour le deuxième, il n'y a pas eu d'annonce faite dans ce sens. Il n'y a même déjà pratiquement pas eu de commande communication.
Bah oui,
parce qu'il est sorti dans la différence quasi complète. On n'a pas du tout joué, effectivement, au niveau de la presse comics, ils n'en ont pas parlé. Et c'est quand même assez étonnant, c'est quand même un dessinateur qui, même s'il a une carrière récente, hein, on l'a dit, né en 78, donc voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui a une longue carrière derrière lui. Mais ouais, c'est assez étonnant de voir la manière dont ça se passe. En plus, quand tu regardes le bien sur toutes ces collections, les plus longues, elles ont fait 4 tomes hein, pour l'instant.
Oui, donc c'est pour ça, enfin, la mode, alors entre autres chez Soleil, c'est de sortir des collections comme ça, donc il y a les secrets du Vatican, moi je pense à la collection 1800, où ils mélangent un petit peu tous les mythes du 19e siècle, où ils essayent c'est du stakhanovisme, quoi, ils essayent de faire sortir le plus vite possible, pour avoir des séries plus ou moins courtes autour d'un thème plus ou moins vague, complète le plus vite possible, quoi. Donc c'est pas forcément un mal, hein, c'est pas ce que je dis, mais je me suis dit que peut-être, vu qu'en plus il est dessinateur de comics, donc habitué à un rythme de travail plutôt soutenu, je me suis dit qu'ils avaient peut-être annoncé le prochain tome dans les 6 mois ou un truc comme
non,
ça.
Non, même pas. C'est vrai que bah, ils travaillent en plus en parallèle chez Dark Horse, on le disait. Moi, ce qui m'a aussi un peu étonné, ça donne l'impression en fait que Nicolas Ponnat n'avait pas prévu d'être intégré à cette collection et qu'il n'avait pas prévu de mettre en place des éléments religieux aussi vite et que compte tenu du nom de la collection, il a été obligé de les mettre en place beaucoup plus vite.
C'est pas impossible. Enfin, sans dire que je fais pas partie du secret des dieux ni rien, mais effectivement, ça me semble être une. On a une collection qui se fait. On a un scénar qui pourrait peut-être on pourrait peut-être le caser dans la collection. Bon bah vas-y, tu le cases. Bah oui, mais alors pour bien montrer que machin. Oh bah tu te démerdes, tu fais ton truc. Puis faut que ça rentre dedans.
Ouais, voilà. Et là, c'est vraiment l'impression que ça donne.
C'est tout simplement mal écrit. Hein. Des fois, il n'y a peut-être pas cherché Mindy à 14h.
Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un gros truc de récupérer des scénars, récupérer peut-être. C'est peut-être aussi même récupérer des scénars, même des vieux projets qui traînaient dans leur truc et leur dire bon, allez, celui-là, on peut plus ou moins le caser dedans. Allez, vas-y, ne serait-ce que pour remplir la collection et dire on en sort.
Et puis, généralement, les scénars mal écrits, c'est cousu de fil blanc et on sait avant de commencer où ça va s'arrêter. Et là, on a l'impression qu'ils mettent en place énormément d'éléments et qui ne se réunissent pas. En fait, les personnages, la plupart des personnages principaux ne sont pas encore rencontrés. Il y a vraiment des éléments qui nécessitent d'être éclaircis.
Oui, c'est que techniquement, voilà. Ça pêche. Quoi.
Et voilà. Il y a forcément des choses qui ont été rajoutées par rapport à un scénario de base. Et c'est pour ça que j'ai quand même envie, avant de dire c'est de la merde, de lire quand même le deuxième tome, parce que je pense qu'il y a vraiment des éléments qui peuvent intervenir et rajouter donc à cette histoire.